nous allons nous tourner nos Bibles dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. À chapitre 13, on va lire versets 6, 7, 8 et 9. Luc, chapitre 13, on va lire versets 6 à 9. Donc Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Donc, c'est encore une parabole. Hein. L'année dernière, on a vu plusieurs paraboles dans l'Évangile avec le frère Albert. Et pourquoi Jésus prêchait-il à l'aide de paraboles? On dit qu'une parabole est une histoire qui se passe sur terre avec un sens céleste. C'est l'histoire qui passe sur terre avec un sens céleste. Le Seigneur Jésus se servait souvent des paraboles afin d'illustrer des vérités divines profondes. Ces histoires sont faciles à mémoriser, les personnages sont marquants et les symboles riches en sens. La parabole était une méthode didactique courante dans le judaïsme. Avant un certain stade de son ministère, Jésus employait beaucoup d'analogies familières à tous avec les éléments courants tels que le sel, le pain, les moutons, etc., dont le sens était assez clair dans le contexte de son enseignement. Les paraboles exigeaient davantage d'explications, si bien qu'à un moment donné de son ministère, Jésus n'enseignait plus qu'en parabole. Donc, voilà, cette parabole là, qui est devant nous, là, on connaît bien, on a entendu plusieurs fois, mais on devrait voir c'est quoi le message de cette parabole ce soir. Qu'est-ce que le Seigneur il voulait dire en racontant cette parabole? La parabole que nous venons de lire est particulièrement humiliante et déchirante. Le chrétien qui peut l'entendre et ne pas ressentir la tristesse et de honte en regardant l'état de la chrétienté doit être dans un état d'âme très malsain. Si on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, quand on lit ce parabole, ça devrait faire quelque chose. On ne peut pas rester le même. Ça devrait faire quelque chose. Nous apprenons d'abord de ce passage que là où Dieu donne des privilèges spirituels, il s'attend à des retours proportionnés. Jésus il dit en Matthieu 25, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, parlant de foi, Jésus l'a dit ainsi. Le Seigneur enseigne cette leçon en comparant l'Église. Premièrement, cette parabole s'est destinée au peuple d'Israël, quand le Seigneur il était là. Donc, le contexte de cette parabole se trouve dans les versets précédents. Donc, ils viennent raconter des nouvelles, des actualités, pour demander ce que Jésus il pense. Donc, Jésus raconte... Il donne sa réponse à travers de ces paraboles. Et donc, premièrement, c'était donné à l'Église juive de son époque et c'est comparé à un figuier planté dans une vigne. C'était exactement la position d'Israël dans le monde. La vigne, il y a un vigneron, c'est comme un jardin, c'est entretenu. Donc, c'est un figuier qui est planté dans une vigne. Mais apparemment, c'était la tendance de cette époque de planter des arbres dans le vignoble. Souvent, c'était figuier. Donc, il a planté ce figuier dans le vignoble. Donc, c'est la même place comme l'Église est là dans le monde. Hein? Ce figuier, il aurait pu être planté au bord du chemin. Ça aurait pu planter ailleurs. Hein? Et là, le Seigneur, il ne demandera pas, il n'attendra pas le fruit. Mais quand c'était dans un vignoble, et c'était entretenu, il a eu tout ce qu'il faut, c'est une position privilégiée. Donc, l'Église de cette époque, hein, il était comme ce figuier qui était planté dans le vignoble. C'était la position d'Israël dans le monde. Ils ont été séparés de d'autres nations par les lois et les ordonnances mosaïques, pas moins que par la situation de leur pays. Ils ont été favorisés par des révélations de Dieu. Ils ont été accordés à aucun autre peuple. Des choses ont été faites pour eux qui n'ont jamais été faites pour l'Égypte ou Ninive ou Babylone ou la Grèce ou Rome. Donc Israël, il avait une position très spéciale dans le plan de Dieu. Il n'était que normal et juste qu'il porte du fruit à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu, il a donné une place pour le peuple d'Israël pour porter du fruit. On pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait plus de foi, de pénitence, plus de foi, de pénitence, de sainteté, de piété en Israël que parmi les païens. C'est ce que Dieu cherchait. Le propriétaire du figuier est venu chercher du fruit. C'est Dieu, c'est le propriétaire. Il vient chercher le fruit dans ce figuier qui était planté il y a 3 ans au moins. Mais il n'a pas trouvé le fruit. Ce n'est pas le... tournez avec moi en Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Donc, ça parle de Jean-Baptiste, hein, qui est en train de prêcher au bord du fleuve Jourdain. Je vais lire le verset 7. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, Jean-Baptiste, il a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a la repentance, il parle de la repentance, et il parle aussi de fruits. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans ce passage. Et Jean-Baptiste, qui était le prédécesseur de Jésus-Christ, il a déjà prêché l'importance de porter du fruit, de produire le fruit. Mais si nous voulons tirer pleinement parti de la parabole qui nous est présentée, alors nous devons regarder au-delà de l'Église juive, de l'Église juive. Nous devons nous tourner vers l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Ils ont la lumière, l'Église a la lumière, la parole de Dieu, pleinement, Et la vérité, et la doctrine, et les préceptes, donc le païen n'entend jamais parler. Donc l'Église a là une position privilégiée, ce que le peuple dehors de l'Église n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir se réunir pour s'encourager mutuellement, pour comprendre la vérité de Dieu. Ils n'ont pas ce privilège. Donc le païen n'entend jamais parler. Quelle est leur responsabilité? N'est-il pas juste que Dieu attend du fruit? Donc c'est normal que l'Église elle devrait produire le fruit. Nous devons regarder vers nos propres cœurs. En tant que des enfants de Dieu, nous devrions regarder nos propres cœurs. Nous vivons dans un pays où il y a une abondance de la Bible. La parole de Dieu est en abondance. Et on peut, dans chaque maison, chaque foyer, il y a la Bible par foyer, mais dans chaque foyer, on a plusieurs Bibles, souvent dans plusieurs langues. Et nous vivons dans un pays de liberté. Nous n'avons aucune contrainte pour prêcher la parole de Dieu, pour parler de la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Et la prédication évangélique, on a la prédication de la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent nous expliquer la parole de Dieu. Il y a plein de livres pour comprendre la parole de Dieu. Donc nous vivons dans un pays où il n'y a pas de famine pour la parole de Dieu. Comme dans les autres pays, nous connaissons, hein, ça suffit d'ouvrir ce magazine porte ouverte et on peut savoir combien des autres, dans l'autre partie du monde, les gens ils souffrent. Il y a une famine pour la parole de Dieu. Ils n'ont pas la liberté. Nous devrions jamais oublier que Dieu attend de nous du fruit. Dieu nous attend du fruit. Ce sont des vérités solennelles. Peu de choses se sont autant oubliées par les hommes que le lien étroit entre privilège et responsabilité. Nous avons le privilège de venir à l'Église pour entendre la parole de Dieu. Mais on a des responsabilités aussi. Donc, il y a un lien étroit entre le privilège et les responsabilités. Mais souvent dans nos pays où nous vivons, on parle de nos droits. On oublie nos devoirs. On oublie nos devoirs. On parle de nos droits. Mais ça suffit de sortir dans la rue et chacun il réclame son droit. On parle de droits, mais on oublie nos devoir. Donc, nous avons souvent plus à manger et boire dans ce pays où nous vivons. Nos frigos, c'est bien plein, n'est-ce pas? Surtout dans la période des fêtes, on n'a pas la place dans le frigo pour ranger des choses. Nous vivons dans l'abondance. De nos jours, nous ne cherchons pas de la nourriture pour remplir nos estomacs, mais pour satisfaire nos palais. On cherche le goût dans ce pays. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Mais on cherche à avoir quelque chose pour remplir l'estomac. Ils n'ont parfois même pas d'eau potable. Nos frigos sont pleins. Nous nous plaignons souvent du temps de météo. Mais notre souci, c'est le météo tous les jours. Hein. Il pleut. Il fait très chaud. Il fait très froid. Nous nous plaignons souvent du temps, que ce soit en été, en hiver ou en printemps, en tant que Français et chrétiens. Et nous ne soucions pas des millions de personnes qui périssent dans ce monde et qui adorent les idoles. Ça peut être les idoles véritablement, les pierres et le bois, mais les idoles de matérialisme, hein, en Europe. Dans le pays de l'Ouest, hein, on a le problème, l'idole, c'est le matérialisme. Les centres commerciaux sont des temples de consommation. Les gens, ils entrent pour consommer constamment. Et l'idole des philosophies, notre pays, il est connu pour la philosophie. On parle de la philosophie vaine, philosophie vaine. Mais nous nous sommes très lents à nous rappeler que nous sommes responsables devant Dieu de tout ce que nous avons. De tout ce que nous avons. À qui on donne beaucoup, on exigerait beaucoup d'eux. Il faut être sensible par rapport à ces choses. N'oublions pas que le grand maître cherche du fruit. Mais si vous demandez pourquoi j'ai cherché, pourquoi je suis en train de prêcher sur ces paraboles, le vigneron, il vient pour plaider, intervenir auprès de maître encore une année. Donc, j'ai intitulé ce message comme le figuier stérile, une année de grâce. Et nous, nous sommes contents d'avoir entré dans un nouvel an. Et c'est une année de grâce pour nous. C'est une année de grâce, n'est-ce pas? Nous apprenons deuxièmement dans ce passage que c'est une chose très dangereuse d'être infructueux, c'est-à-dire sans fruit, sous le grand privilège religieux. Et nos enfants sont exposés à la parole de Dieu dès leur bas âge. Et nous, nous sommes tellement exposés à la parole de Dieu. La manière dont notre Seigneur nous transmet cette leçon est profondément impressionnante. Il nous montre la propriété du figuier stérile, ce plaignant qu'il ne portait aucun fruit. Ces trois dernières années, je suis venu chercher des fruits. Donc chaque année, le maître il vient chercher du fruit dans ce figuier. Donc les trois dernières années, il vient chercher du fruit et je n'en trouve aucun. Il est décrit comme ordonnant même la destruction de l'arbre qui prend la place d'une manière inutile du sol. C'est l'année dernière, mais bon, après longtemps, j'hésitais beaucoup. Ma famille, elle voulait qu'il y ait un pommier dans notre petit jardin. Il occupait toute la place. Non seulement la place, il croissait à travers. C'est ma faute, je n'ai pas dressé bien quand il était petit. Je laissais et donc finalement, il très encombrant, il a occupé toute la place. Donc ma famille, elle était en train de me pousser de couper cet arbre pendant des années. Mais finalement, j'ai abattu l'arbre avec un cœur lourd l'année dernière. Et ça prend la place. Ça prend la place. Le jardin, on occupe le jardin, mais un arbre inutile qui ne porte pas le fruit. Mais cet arbre, il portait le fruit, hein. Mais ce figuier, il ne portait pas de fruits, mais il occupait toute la place. Donc, il prend la place inutilement du sol, de la terre, de ce jardin. Et qui prend la place d'une manière inutile du sol, couple, pourquoi occupe-t-il le sol inutilement? Mais appliquons-nous à notre propre vie. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? On peut être à l'église, hein? On peut occuper notre place dans un banc. Hein? Ça peut être le premier ou le dernier, mais on occupe une place. Mais est-ce que c'est utile ou inutile? Est-ce que c'est utile ou inutile? Mais juste parce qu'on est présent ici, ça veut pas dire qu'on est en train de faire les bonnes choses. Mais comment notre vie, est-ce qu'elle produit le fruit que le Seigneur désire? Ou je suis en train de satisfaire mes aspirations religieuses? On peut, souvent on cherche notre propre aspiration religieuse. Hein. On aime bien être religieux. On aime bien être vu comme quelqu'un très religieux, quelqu'un très spirituel. Mais la question, ce n'est pas cela. Et est-ce qu'on porte du fruit? Pourquoi occupe-t-il le sol inutilement? Il fait venir le vigneron qui lui plaide pour le figuier afin qu'il soit épargné un peu plus longtemps. Seigneur, laisse-le encore cette année. Mais ça peut être la parole de Jésus, notre notre médiateur auprès du Père qui demande, plaide à notre place auprès du Père pour laisse-le encore cette année. Peut-être il va porter du fruit cette année. ça fait peur, n'est-ce pas? Ça fait peur. Mais nous, on est complètement ignorants. On ne sait pas qu'est-ce que ça va passer cette année. Vous savez, en 2019, personne n'a douté qu'on va tomber dans une situation comme ça. Le monde entier était gelé. Personne n'a pensé. Mais on ne sait pas qu'est-ce que nous attend cette année. On ne sait pas. Mais le Seigneur Jésus, il plaide pour chacun de nous. Il dit, peut-être cette année, ne coupe pas, Seigneur, cette année. Mais peut-être il va porter du fruit. Le Fils de Dieu connaissait les pensées de son Père, la propriété du vignoble, et que l'ordre redoutable de l'abattre avait été émis. Israël avait de nouveau épuisé la tolérance divine. Ni une nation, ni une personne n'a de raison de jouir de la sollicitude de Dieu si elle ne produit pas les fruits de la justice pour la gloire et la louange de Dieu. Et nous sommes là pour le plaisir de Dieu. Dieu nous a créés pour son propre plaisir, n'est-ce pas? Et si nous ne plaisons pas à notre vie ne plaît pas notre Créateur, notre Maître, nous occuperons la place inutile sur le sol, sur cette terre. Quand il ne sert pas cette fin juste, pourquoi la sentence de mort ne devrait-elle pas suivre son échec, pécheur, et ne serait-il pas retiré de sa place privilégiée? Le Seigneur nous a placés dans une place privilégiée. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, vous avez une place privilégiée. Si vous êtes dans l'église du Seigneur, vous avez une place privilégiée. Ce que beaucoup de gens qui ne sont jamais connus, comparez-vous avec un enfant qui est né dans une famille musulmane ou dans une famille hindoue ou d'autres religions, athées. Mais par rapport à eux, vous avez une place privilégiée. Donc vous devrez porter le fruit que vous devrez porter. Il conclut la parabole en mettant ses paroles solennelles dans la bouche du vigneron. Si cela porte du fruit l'année prochaine, très bien. Si ce n'est pas le cas, alors coupez-le. Il y a ici un avertissement clair à toutes les églises professant du Christ. Si leur pasteur n'enseigne pas une saine doctrine et si leurs membres ne mènent pas une vie sainte, alors ils sont en danger imminent de destruction. Dieu les observe chaque année et tient compte de toute leur voie. Ils peuvent abonder dans la religion cérémoniale, comme le figuier dans Matthieu 21:19. Vous vous souvenez quand Jésus, il voit un figuier. Il va aller vers le figuier en pensant qu'il y a quelque chose pour manger. Il y a des fruits. Mais le figuier, il était plein, avec plein de feuilles. Mais Matthieu 21:19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Parce que normalement, le fruit, il vient même avoir le feuille dans le figuier. Mais le figuier, il avait plein de feuilles. Ça peut être comparé avec notre vie religieuse. Et ce qui était la vie des pharisiens, il n'avait pas de fruits. Et Jean-Baptiste, il a dit que repentez-vous et portez du fruit. Mais c'est la repentance à précède avant de porter du fruit. Si quelqu'un est vraiment repenti, il devrait porter du fruit. Si vous ne portez pas le fruit, peut-être vous ne menez pas une vie de repentance. Il en fut ainsi avec l'Église juive 40 ans après l'ascension de notre Seigneur, et s'en sera encore ainsi avec beaucoup d'autres. On peut le craindre avant que la fin n'arrive. La hache se trouve près de la racine de beaucoup d'une église infructueuse. Le jugement ira encore l'avant, coupez-le. Et c'est de, dans le contexte, le Seigneur il a parlé de nation juive, l'église juive, juive. Et après, on peut comparer ça avec l'église chrétienne d'aujourd'hui, ensemble l'église. Après, on devrait comparer avec notre vie individuelle en tant que chrétien. Est-ce que nous portons le fruit? Il y a encore un avertissement plus clair dans le passage pour tous les chrétiens qui professent d'être chrétiens, mais jamais convertis. On pense qu'on est chrétien, mais jamais converti. Jamais converti. Il y en a beaucoup dans chaque congrégation qui entendent l'Évangile, qui sont littéralement suspendus au bord du gouffre sans fond. C'est quel danger. On pense qu'on est chrétien, on pense qu'on est dans l'Église, mais jamais converti. Ils sont dans le danger. Ils ont vécu pendant des années dans la meilleure partie de la vigne de Dieu, et pourtant, ils n'ont porté aucun fruit. Ils ont entendu l'Évangile prêché fidèlement pendant des centaines de dimanches, mais ils n'ont jamais accepté l'Évangile. N'ont jamais pris la croix et ont suivi Christ. Mais en entendant la prédication chaque dimanche, chaque mardi, on peut remplir notre tête avec beaucoup d'informations. Mais si nous n'arrivons pas à pratiquer ce qu'on entend, la parole de Dieu, ce qu'on peut lire, on peut entendre, si notre vie ne change pas, s'il ne porte pas le fruit, ce sera quoi? C'est simplement d'information. Vous devenez un connaisseur chrétien, mais pas un chrétien. Ils ne se vivent peut-être pas au péché ouvert, à ce type de chrétien qui ne porte pas le fruit, mais ils ne vivent pas pour la gloire de Dieu. L'arbre, il est là, mais il ne porte pas le fruit. Mais il n'y a pas de péché, mais... Quelqu'un qui a dit, je pense que Matthew Henry, un commentateur, il dit que le danger, c'est quand vous occupez le sol, même si vous ne commettez pas le péché, mais vous êtes une très mauvaise influence pour le monde, un très mauvais témoignage pour le monde, parce qu'on ne fait rien. On dit qu'on est chrétien, mais on ne porte pas le fruit. On est plutôt une influence négative chrétien pour le monde. Il y a des milliards de soi-disant chrétiens respectables dans cette situation. Ils n'ont pas la moindre idée à quel point ils sont proches de la destruction. N'oublions jamais que se contenter de s'asseoir dans l'assemblée et d'entendre des sermons alors que nous ne portons aucun fruit dans nos vies est une conduite qui est de plus offensante pour Dieu. Et on ne glorifie pas Dieu. On peut être assis régulièrement, chaque semaine, chaque mardi, chaque dimanche à l'église. Mais si on ne porte pas de fruit pour le Seigneur, on ne glorifie pas Dieu. Cela le provoque à nous couper brusquement et cela sans remède. Enfin, nous apprenons de cette parabole quelle la dette infinie nous avons tous envers la miséricorde de Dieu et l'intercession de Christ. Christ qui est symbolifié par le vigneron ici, et il intercède auprès du propriétaire de cet arbre de ne pas couper cet arbre. Il plaide pour encore une année de grâce. Il semble impossible de tirer une autre leçon de la supplication sincère de vigneron. Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mais le Saint-Esprit, il œuvre en nous. Il est en nous, mais il œuvre en nous. Et il fait tout puisqu'on peut porter le fruit. Il est notre aide, il est notre consolateur. Il fait tout pour nous aider. Mais si l'arbre refuse de boire de l'eau, prendre l'engrais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai, du fumier, peut-être l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Certes, nous voyons ici comme dans un miroir, la bonté et l'amour de Dieu et la médiation du Christ. La miséricorde a vraiment été appelée l'attribut chéri de Dieu. Le pouvoir, la justice, la pureté, la sainteté, la sagesse, l'immuabilité sont tous des éléments du caractère de Dieu et ont tous été manifestés au monde de mille façons, à la fois dans ses œuvres et dans sa parole. Mais s'il y a un de ces attributs qu'il est heureux de montrer à l'homme plus clairement que les autres, sans aucun doute, cet attribut est sa miséricorde. C'est un Dieu qui aime la miséricorde. Michée 7:18, il dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Mais, oui, je pense que je lis quelque part, la miséricorde pour un criminel, c'est punir l'innocent. La miséricorde pour un criminel, c'est punir l'innocent. Et Christ, l'innocent, il a montré la miséricorde, mais il a pris notre péché, notre châtiment sur lui. Et encore, 1 Chronique 16:34, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » On confond souvent la miséricorde à la grâce et la grâce. Si ces deux termes ont un sens proche, ils ne sont pas synonymes. Pour résumer la différence, la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous punit pas comme nos péchés le méritent. Et la grâce, c'est quand il nous bénit alors que nous ne le méritons pas. La miséricorde nous délivre du jugement. La grâce est une bonté, donc nous sommes indignes. Miséricorde divine fondée sur la médiation d'un sauveur à venir. La miséricorde divine était la cause pour laquelle Adam et Ève n'ont pas été jetés à l'enfer le jour où ils sont tombés. Le jour où ils ont péché, Adam et Ève auraient pu être jetés dans l'enfer. Mais Dieu ne l'a pas fait à cause de sa miséricorde. La miséricorde divine a été la cause pour laquelle Dieu a supporté si longtemps ce monde chargé de péché et ne descend pas au jugement. La miséricorde divine est même maintenant la cause pour laquelle les pécheurs non convertis sont si longtemps épargnés et ne sont pas coupés dans leur péché. Nous n'avons probablement pas la moindre idée de ce que nous devons tous à la miséricorde de Dieu. Le dernier jour prouvera que toute humanité était débitrice de la miséricorde de Dieu et la médiation de Christ. Même ceux qui sont finalement perdus découvriront à leur honte que c'était des miséricordes de Dieu. Ils n'ont pas été consumés longtemps avant de mourir. Très souvent, nous souvenons bien la parole de Jésus, mais nous ne nous souvenons pas du contexte, de la raison pour laquelle il a été prononcé ces paraboles. Si tel est le cas, nous ne comprendrons peut-être pas la raison même pour laquelle Jésus a raconté cette parabole. Il devrait être préférable pour nous de lire les versets qui précèdent notre parabole actuelle. On va vite fait lire Luc 13, le premier 5 versets, pour comprendre le contexte. En ce temps même, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs, pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Encore une répète, verset 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, les gens, ces gens-là, ils viennent raconter à Jésus l'actualité. Mais souvent, on aime bien raconter l'actualité, hein, ce qu'on a vu dans la télé ce matin, ce qui se passe en Ukraine ou la catastrophe naturelle. Il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ces gens-là, ils viennent dire à Jésus, mais certainement en entendant ce que Jésus va dire. Ce que Jésus va dire. Mais la réponse de Jésus, mais souvent quand nous entendons la catastrophe et tout ça, on dit parfois, c'est bien fait pour eux. Parce qu'ils sont cherchés. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec mon collègue, avec mon chef, par rapport à l'Ukraine. Il a dit qu'ils sont cherchés. Ils sont cherchés, cette situation. Et sinon, on dit que c'est la vie. En France, pour tout, la réponse, c'est la vie. Sinon, on dit quoi? Si quelqu'un est décédé, oh, il est mieux en haut où il est. On a un mot d'explication. Mais ici, Jésus, il dit quoi? Il dit simplement, si vous ne répondez pas, vous mourirez aussi de la même façon. Donc, l'essentiel, c'est quoi? La repentance. Ce n'est pas autre chose. Et ce que Jésus veut, que nous devrions repentir. Nous devrions repentir. Donc, comme c'est l'heure, on va sauter des choses. Et donc, le mot de Galiléen mentionné ici était probablement le sujet de conversation commun à Jérusalem et dans toute la Judée. Nous pouvons bien croire que toutes les circonstances et les détails qui lui appartiennent ont été continuellement discutés par des milliers de personnes qui n'ont jamais pensé à leur propre fin. On peut parler de la mort de quelqu'un. On peut parler de la mort, vous savez, il y a 12-13 ans, le tour aux États-Unis est tombé. Des milliers de personnes sont mortes dans quelques minutes. Et on ose parler de mort des gens autour de nous. Mais est-ce qu'on pense à notre propre mort? Ce n'est pas si loin. Comme nous pouvons regarder dans la télé BFM en boucle sur la mort et la destruction de milliers de personnes dans le monde entier, et en particulier en Ukraine de nos jours, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Un meurtre, une mort subite, un naufrage ou un accident ferroviaire occuperont complètement l'esprit d'un quartier et seront dans la bouche de tous ceux que vous rencontrez. Et pourtant, ces mêmes personnes n'aiment pas parler de leur propre mort, de leur propre perspective dans le monde éternel au-delà de la tombe. Telle est la nature humaine à toutes les époques. En religion, les hommes sont prêts à parler des affaires de n'importe qui plutôt que de leur. L'état de nos propres âmes devrait toujours être notre première préoccupation. Il est éminemment vrai que le vrai christianisme commencera toujours à la maison, c'est-à-dire chez toi, chez soi. L'homme converti passera toujours d'abord à son propre cœur, à sa propre vie et ses propres péchés. Entend-il parler d'une mort subite, il se dira, aurais-je été trouvé prêt si cela m'était arrivé? Entend-il parler d'un crime horrible ou d'un acte de méchanceté, il se dira, mes péchés sont-ils pardonnés? Il posera la question. Me suis vraiment repenti de mes propres transgressions. Chaque fois nous entendons un meurtre ou quelque chose, mais moi je pense, ça pourrait être moi si je n'étais pas chrétien. Ça pourrait être moi. Mais en nous-mêmes, en profondeur, on a ces pensées terribles. Peut-être on ne tue pas quelqu'un, mais on peut tuer quelqu'un par nos mots. Et on peut assassiner par le commérage. Quand on parle derrière le dos de quelqu'un, on peut assassiner leur caractère entièrement. On peut finir avec ces personnes. Mais qu'est-ce que le péché est terrible en nous? Qu'est-ce qui m'a empêché de marcher sur le même chemin vers la perdition éternelle? Seulement la grâce de Dieu. Observons pour une autre chose dans ce verset combien notre Seigneur établit la nécessité universelle de la repentance. Deux fois, il déclare catégoriquement, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous aussi. » La vérité ici affirmée est l'un des fondements du christianisme. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous aimons tous le péché et sommes naturellement nous ne sommes pas capables d'avoir l'amitié avec un Dieu saint. Nous ne sommes pas aptes d'avoir l'amitié avec le Dieu saint. Deux choses sont absolument nécessaires au salut de chacun de nous. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons croire à l'Évangile. Sans la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, aucun homme ne peut être sauvé. La nature de la vraie repentance est clairement et indubitablement énoncée dans la Sainte Écriture. Cela commence par la connaissance du péché. Est-ce qu'on reconnaît le péché qui est en nous? On peut facilement parler de péché de nos frères, de nos sœurs, de nos prochains. Est-ce que nous reconnaissons le péché qui est en nous? Il continue à travailler le chagrin pour le péché. Si on reconnaît le péché, est-ce qu'on regrette? Regrette, c'est un mot, je trouve, que très léger. Est-ce que nous avons le chagrin pour notre péché? La tristesse, la profonde tristesse. Le combat avec le péché. Elle conduit à la confession du péché devant Dieu. Si on a ce chagrin, on a cette profonde tristesse, notre péché devrait être confessé. Et elle se manifeste devant l'homme par une rupture complète avec le péché. Si on regrette, si on a la tristesse, on confesse, on ne continue pas dans le péché, il y a une rupture définitive avec le péché. Par-dessus tout, elle est inséparablement liée à une foi vivante au Seigneur Jésus-Christ. Une telle repentance est la caractéristique de tous les vrais chrétiens. Sans repentance, il peut y avoir d'une moindre idée du ciel. Sans repentance, un pécheur n'est apte à vivre dans le ciel. Un pécheur qui ne répond pas, comment il peut espérer d'aller au ciel? Nous ne pourrions pas être heureux si nous atteignions le royaume de gloire avec un cœur qui aime encore le péché. Est-ce que nous aimons le péché encore, mais au même moment, nous espérons d'aller au ciel? C'est un caractère qui est incompatible avec notre espérance et notre vie ici sur terre, vie terrestre. La compagnie des saints et des anges ne nous donnerait aucun plaisir. Pour un pécheur, s'il va au ciel, il sera comme un poisson sur la terre. Ce n'est pas son habitat naturel. Et il sera triste même avec les anges et avec les saints. Il ne donnera aucun plaisir. Nos esprits ne seraient pas en harmonie pour une éternité de sainteté. Mais si on aime encore le péché, on ne voudra pas, croyez-moi, on ne voudra pas avoir une vie d'éternité de sainteté. C'est-à-dire vivre sans péché pour l'éternité. Comment on peut aimer? Ce sera ennuyant, certainement, de ce côté, quand on voit, ce sera ennuyant si on aime encore le péché. Et méditons sur ces choses dans nos cœurs. Nous devons nous repentir et croire si nous espérons être sauvés. Mais nous sommes, nous jamais repentis. Connaissons-nous vraiment notre propre péché? Nos péchés nous causent-ils du chagrin? Avons-nous crié à Dieu au sujet de nos péchés et cherché le pardon devant le trône de grâce? Avons-nous cessé de commettre du péché et rompu avec l'habitude pécheresse? Haïssons-nous sincèrement de tout cœur tout ce qui est mauvais? Ce sont des questions sérieuses. Ils méritent d'être sérieusement pris en considération. Le sujet dont nous sommes saisis n'est pas une question légère. Rien de moins que la vie éternelle, est en jeu. Si nous mourons impénitents et sans un cœur nouveau, nous ferions mieux de ne jamais naître. Si nous ne sommes jamais encore repentis, commençons sans tarder. Nous en sommes responsables. Repentez-vous et convertissez-vous. Était la parole de Pierre aux Juifs qui avait crucifié notre Seigneur. Acte 3, 19. Et aussi en acte 8, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées. Était l'accusation adressée à Simon le mage quand il était dans le fier la mer et dans le lien d'iniquité. Mais il y a tout pour nous encourager à commencer. Ça peut être effrayant quand nous lisons la parabole, mais il y a tout pour nous encourager. Le Christ nous invite, le Christ il intercède pour nous auprès du Père. Les promesses de l'Écriture sont là pour nous. Les déclarations glorieuses de la volonté de Dieu de nous recevoir abondent tout au long de la parole. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors levons-nous et invoquons Dieu, repentons-nous sans tarder. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi juste. Si nous sommes déjà repentis dans le passé, alors continuons à repentir jusqu'à la fin de notre vie. Il y aura toujours le péché à confesser et l'infirmité à déplorer tant que nous serons dans le corps. Mais le repentir, ce n'est pas une fois dans la vie qui se passe pendant notre conversion. Parce que nous continuons à pécher. Donc nous devions repentir chaque fois que nous commettons le péché. Chaque fois que nous avons des choses à abandonner. Chaque fois que nous faisons les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Nous devrions repentir jusqu'à la fin, tant que nous sommes dans le corps. Repentons-nous plus profondément et humilions-nous plus profondément chaque année. Que chaque nouvel an qui revienne nous trouve haïssant davantage le péché. Et aime davantage Christ. C'était un vieux saint sage qui a dit, « J'espère porter ma repentance jusqu'à la porte même du ciel. » J'espère porter ma repentance jusqu'à la porte même du ciel. Donc, notre repentance, je serai même jusqu'à la porte du ciel. Et nous devrions repentir pour tout ce que nous faisons qui ne plaît pas Dieu. Et en Jean 15, nous voyons, si nous demeurons en Christ, on peut porter du fruit. Si nous ne sommes pas en Christ, nous ne demeurons pas en Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit. Donc, le Seigneur, il plaide auprès du Père, auprès du jardinier, le propriétaire du jardin, de cet arbre, laisse-le encore une année. S'il ne porte pas le fruit, coupe-le. Mais c'est un avertissement pour nous que nous pensons à ces choses, on prend sérieusement, en pensant que Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous aime, il est miséricordieux, mais c'est un juge aussi. Donc, si nous devrions convertir, nous devrions faire cela cette année. Si nous devrions repentir de nos péchés, nous devrions repentir et mettre notre vie devant Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, combien de fois nous passons par ces passages, Seigneur, sans être dérangés. Seigneur, parfois nous lisons ta parole comme une histoire, comme, mais combien c'est vrai, Seigneur, combien c'est comme un miroir quand nous mettons notre vie devant toi sans cacher. Seigneur, c'est ta parole qui nous dévoile entièrement. Nous sommes nus devant toi, Seigneur, et peut-être nous pouvons jouer la comédie devant le monde, mais devant tout le monde, mais nous serons comme Adam et Ève après leur péché devant toi. Seigneur, Seigneur, nous ne cherchons pas le feuille de figuier pour cacher notre nudité, mais nous cherchons être couvrir par ta sainteté, par le vêtement que tu nous donnes, le vêtement de justice. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à être des arbres qui portent le fruit. Aide-nous à demeurer en toi, en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour notre médiateur, Jésus-Christ, qui plaide pour nous, Seigneur, chaque jour devant le Père. Quel privilège nous avons, Seigneur, qui a connu notre état et qui est Dieu lui-même et qui est devant le trône de grâce, Seigneur, pour plaider à notre faveur. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Merci d'avoir nous sauvés. Merci pour ce moyen d'être sauvé, Seigneur, pour échapper à cette condamnation éternelle. Seigneur, travaille dans nos cœurs ce soir, puisque nous pourrions vraiment être tes enfants sans rien cacher, sans rien à te cacher. Seigneur, nous demandons cette prière dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.